Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Mercredi prochain, le 27 mai, lors de la Journée nationale de la Résistance, quatre personnalités emblématiques feront leur entrée au Panthéon. Franck Ferrand nous les présente dès cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Les quatre résistants qui vont entrer au Panthéon sont deux femmes, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioz, dont les cendres ne seront du reste pas déplacées, et deux hommes, Pierre Brossolette et Jean Zay. Jean Zay, dont je vais vous parler en compagnie de son biographe, l'historien Antoine Pro. Je reçois aussi Nicolas Vinci, commissaire de l'exposition dévolue à ces grandes figures de la Résistance, exposition qui a lieu en ce moment même au Panthéon.
Et d'ailleurs, avant 15h, vous répondrez aussi à la question de Marine via la page Facebook de l'émission sur l'origine du Panthéon des grands hommes.
Voilà, vous voyez que nous ne faisons pas les choses à moitié. Pour le moment, je vous propose d'évoquer la vie étonnante de Monsieur Zay.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Charles Develle, un ancien milicien, est arrêté alors qu'il était en train de tenter de s'enfuir en bateau en direction du Venezuela. Son nom est lié à la mort présumée de Jean Zay, ministre du Front Populaire, emprisonné pendant la guerre et disparu en juin 1944 dans des circonstances troubles pour le moins. Charles Develle est interrogé et très vite il passe aux aveux. Oui, il en sait long sur la mort de l'homme politique. Oui, avec deux autres miliciens, il l'a bien sorti de prison pour l'assassiner dans une forêt d'Auvergne. Et oui, pour brouiller les pistes, ils se sont débarrassés du corps en le jetant dans un gouffre. L'homme assassiné était une grande figure, tant par la fulgurance de sa carrière politique dans l'entre-deux-guerres que par le caractère inique de sa chute. Une chute orchestrée en sous-main par les gens de Vichy, pressés d'en finir avec ce fervent républicain, haï pour ses opinions, pour son action politique, haï peut-être tout simplement pour ce qu'il était. On lit parfois le nom de Jean Zay sur telle ou telle institution, vous savez, sur des façades de collège notamment. Mais bien entendu, cette entrée au Panthéon est une occasion d'évoquer l'homme, un homme trop peu connu. Nous allons faire un saut de 15 ans en arrière par rapport à la période dont je vous parle et nous retrouver en 1932 à Orléans. Jean Zay est un jeune homme, il faut l'imaginer plutôt petit, avec le visage rond, le regard fin et pénétrant. Il affiche ce soir-là, un sourire radieux et pour cause, à seulement 27 ans, il vient d'être élu député du Loiret sous l'étiquette du Parti radical. Dans l'affaire Jean Zay, voilà ce qu'écrit Gérard Boulanger. À Orléans, la République a trouvé son héros. Le soir de son élection, Jean Zay est porté en triomphe par une foule enthousiaste jusqu'à la préfecture où il reçoit des gerbes de fleurs, puis à l'hôtel de ville où il est chaudement félicité par le maire. Cette grande fête est le témoignage du soulagement de tout un camp après une victoire qui a été obtenue de haute lutte, vraiment à peu de choses, moins de 500 voix de différence avec le concurrent. La campagne a été rude et Jean Zay a été l'objet d'attaques d'une violence inouïe venant notamment des journaux d'extrême droite qui à l'époque ne manquent pas. Il faut dire que le nouvel élu a tout pour déplaire à ces gens-là. D'abord, bon, certes, c'est un brillant avocat, un orateur redouté. Il fait partie du milieu orléanais de la gauche radicale, laïque, dreyfusarde. D'ailleurs, son père, Léon Zay, a été une figure influente de ce milieu. Jean Zay est aussi franc-maçon, et puis ne l'oublions pas, même s'il a été baptisé selon le protestantisme maternel, ses adversaires font ressortir ses origines juives côté paternel. Qu'importe, le jeune député nouvellement élu ne va pas s'arrêter aux insultes dont il est l'objet, et sitôt élu, il se met au travail à la Chambre des députés jusqu'à devenir, en très peu de temps, en un rien de temps, le jeune espoir du parti radical. Inutile de vous dire que ça n'arrange pas son image dans les milieux nationalistes, et ça au niveau national cette fois. Certains journaux vont jusqu'à ressortir un texte intitulé « Le drapeau », un texte qui avait été signé par Jean Zay alors qu'il n'avait que 19 ans. Dans Jean Zay, le ministre assassiné, Antoine Pro nous le décrit, ce texte. D'un pacifisme outrancier, écrit-il, comme on pouvait l'être au sortir de la Grande Guerre, ce texte dénonçait les horreurs de la guerre et se terminait en qualifiant le drapeau de vulgaire torche-cul. Ça a été évidemment comme une tache sur la carrière de Jean Zay. Dans une Troisième République qui est très avide de scandales, vous savez, nous sommes habitués, nous, à tous ces bruits et ces rumeurs que colportent les réseaux sociaux, mais c'était déjà largement le cas. Et à l'époque, c'était la presse qui se faisait l'écho de tout ça, bien entendu. L'affaire fait beaucoup de bruit, le jeune député doit se justifier. Alors, un peu acrobatiquement, il explique qu'il s'agit d'un pastiche rédigé en 1924 dans le cadre d'une correspondance privée entre camarades, dit-il, et ce texte ne constitue, affirme Jean Zay, à aucun degré la manifestation d'une opinion. Alors, comme toujours dans ce genre de circonstances, l'orage va finir par passer, mais toute sa vie, Jean Zay va voir ressurgir à la moindre occasion ce texte de jeunesse qui lui colle à la peau. En attendant, le député se montre très habile dans ses missions. C'est, je vous l'ai dit, un excellent orateur, un travailleur acharné. Il affirme ses convictions avec une espèce de force extraordinaire. Et il devient vite l'étoile montante du parti. Dès janvier 1936, il est sous-secrétaire d'État et dans la foulée du triomphe du Front populaire au printemps, en mai, Léon Blum fait de lui son ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Ça, c'est une fantastique réussite pour Jean Zay, qui à l'époque n'a pas 32 ans. Ce poste ministériel, et ce ne sont pas les événements actuels qui me contrediront, n'est-ce pas ? Ce poste est difficile, il est exposé, Jean Zay doit y gérer des enjeux essentiels. Alors on parle déjà à l'époque de démocratisation de l'enseignement, d'émergence de nouvelles pédagogies, de modernisation de la politique culturelle. Vous voyez qu'on n'a rien inventé. Des sujets délicats donc, qui sont matière à des débats souvent houleux dans une société française en plein doute sur son avenir. Or, à son poste, Jean Zay imprime sa marque personnelle. On peut parler à son propos et à propos de la politique qu'il mène d'une certaine modernité, si vous voulez. Antoine Pro nous en donne un exemple. Les hommes politiques de l'époque, tout de noir vêtus, ne se montraient guère en dehors de leur vie officielle. Jean Zay est l'un des premiers qui accepte d'exister publiquement dans sa vie privée. Le Monde illustré du 26 août 1939, on est vraiment là à l'extrême veille de la guerre, hein, le montre, on est même dans le début de la guerre, le montre en maillot de bain sur la plage portant sa première fille de 3 ans, Catherine, dans les bras. Dans un registre plus politique, si Jean Zay possède les fortes convictions d'un radical ancré à gauche, il n'est pas pour autant ce qu'on pourrait appeler un dogmatique. Loin de là même, il aime éprouver ses mesures sur le terrain, c'est un homme tout à fait pratique. Et même si ses initiatives sont souvent bloquées ou ralenties par les lenteurs du système parlementaire de la Troisième République, lui se montre actif, novateur. Alors, on doit beaucoup de choses à Jean Zay et à ses équipes. Parmi tout ce qu'on leur doit, citons pêle-mêle la prolongation de 13 à 14 ans de l'obligation scolaire, qui aujourd'hui est à 16 ans, vous savez, mais à l'époque, on passe de 13 à 14, la promotion des travaux dirigés, le sport à l'école, bien entendu, c'est même sans doute ce qui reste dans l'imaginaire collectif lorsqu'on prononce le nom de Jean Zay, et puis toute une politique de refonte du mécénat d'État, la création du Festival de Cannes, ça c'est pour le côté ministère des Beaux-Arts. La première édition du Festival de Cannes, en 39, sera annulée, vous savez, en raison du déclenchement de la guerre. Je n'oublie jamais de citer à ce propos un autre fondateur, celui qui est à l'origine même du festival, qui est Philippe Erlanger. Enfin, je referme très vite cette parenthèse. Alors, la période pendant laquelle Jean Zay est ministre, ne l'oublions pas, c'est la période du basculement vers la guerre, bien entendu. La menace allemande se précise chaque jour. C'est une course vers un conflit auquel Jean Zay va payer le plus lourd des tributs.
«
sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Paris brûle-t-il, composé par Maurice Jarre. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le ministre du Front Populaire, Jean Zay.
Vous imaginez bien qu'au moment du déclenchement des hostilités, Jean Zay aurait pu rester ministre. Mais il va décider de démissionner pour rejoindre l'armée. Il n'en demeure pas moins député. Son choix de rejoindre le front s'inscrit dans une logique à la fois politique, vous avez bien compris à qui nous avons affaire, hein, cet homme qui est toujours dans l'événement, mais c'est aussi une logique personnelle. Non seulement Jean Zay est sans doute un peu lassé par tous les jeux politiques, mais il a été tellement accusé de n'être pas patriote, etc., qu'évidemment, lorsque l'occasion se présente de démontrer son patriotisme, il l'a saisi. Antoine pronote « La guerre rend les choses claires ». Prendre l'uniforme et manifester sa fidélité à la politique qu'il a défendue et affirmer la sincérité de son patriotisme sans cesse mis en doute par ses détracteurs. Il va devenir officier de liaison dans un régiment en Lorraine et on peut dire qu'il est... Alors c'est intéressant quand vous avez été ministre de se retrouver comme ça, subordonné forcément dans l'armée. Il est très discipliné, valeureux, nous disent les rapports. Et au moment où vient la débâcle, au printemps 1940, son unité, comme le reste de l'armée, est refoulée. Et bien entendu, peu à peu, va descendre vers le sud de la France. C'est toute l'avancée de l'armée allemande. Et alors qu'il est éloigné de son unité, il apprend que les députés sont attendus à Bordeaux, où le gouvernement a trouvé refuge. Vous savez, après Tours, le gouvernement s'est installé à Bordeaux, et à ce moment-là, Zay va rejoindre le gouvernement. Il gagne la ville le 19 juin. Il faut imaginer l'incroyable confusion qui règne dans cette ville, que montre bien le film de Rapneau. Vous vous rappelez, on voit Bon Voyage, on voit cette ville de Bordeaux complètement aux prises avec les pires... tout chacun à son point de vue, bien entendu, face aux Allemands qui approchent. Certains plaident pour un armistice, d'autres veulent poursuivre le combat depuis les colonies d'Afrique du Nord. Et du reste, Jean Zay est de ceux-là. Quand il apprend que le gouvernement met à disposition un paquebot de 600 cabines, le fameux Massilia, notamment pour que les parlementaires puissent se rendre en Afrique du Nord, il fait le choix d'embarquer. Il est accompagné de sa femme, de sa fille, qui l'ont rejoint. Ce qu'il ne sait pas encore, ce qu'il n'a pas du tout deviné, c'est que tout ça, toute cette affaire est un piège. En tout cas, ça va tourner au piège. Peu après le départ du navire, les partisans de l'armistice prennent le dessus à Bordeaux et dès lors, les parlementaires qui seront partis, les 27 parlementaires qui sont sur le Massilia, vont être désignés, en tout cas par une grande majorité de la presse, comme des fuyards, comme des traîtres. On apprend la signature de l'armistice pendant la traversée. Et là, bien sûr, il y a un certain nombre de parlementaires qui sont embarqués sur le Massilia et qui demandent qu'on détourne, qu'on déroute le navire. Mais ils n'y parviennent pas. Et quand ils arrivent à Casablanca, ils ne peuvent que mesurer à quel point l'opinion a été complètement retournée. Une partie des journaux est déjà à l'œuvre pour présenter le départ de ces parlementaires et de ces responsables, leur départ de Bordeaux comme une fuite. Jean Zay va même être giflé par un officier aviateur qui le traite de torche-cul, vous vous rappelez ? Ça, c'est une allusion évidemment au dernier mot de son trop célèbre texte de jeunesse, le drapeau. Alors, pendant que le maréchal Pétain prend le pouvoir de l'autre côté de la Méditerranée, ses parlementaires sont bloqués en Afrique, ils vont tenter de réagir et Jean Zay rédige une note pour expliquer les événements. Il va multiplier les démarches auprès des autorités pour comprendre ce qui se passe, pour trouver une solution. Sa situation est d'autant plus complexe qu'il était encore officiellement sous les drapeaux au moment où il s'est embarqué sur le Massilia. Et bien qu'il ait agi, il a fait tout ce qu'il fallait pour prévenir son supérieur militaire, pour régulariser sa situation, etc. Vous imaginez bien que pour ses ennemis, le prétexte est trop beau. Le 16 août, il est arrêté au Maroc pour abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi. Vous imaginez, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas lire sans sentir en soi monter la colère. On est dans la mauvaise foi absolue et en même temps, c'est un piège et les mâchoires du piège se referment. 4 jours plus tard, Jean Zay est transféré à Clermont-Ferrand. Il laisse sa femme Madeleine sur le point d'accoucher, puis sa petite fille, elles vont rester au Maroc. l'époque. Et puis alors là, c'est le procès, un procès de représailles, un procès évidemment politique et dont certains aspects ne manquent pas de confiner avec un certain absurde. Jean Zay écrira « J'ai lu la haine et le fanatisme sur la face de mes prétendus juges. J'ai vu dans l'enceinte même du tribunal, comme dit l'Ecclésiaste, siéger l'iniquité et dans le temple de la justice résider l'injustice. » Le 4 octobre, en dépit de l'évidence, parce que là, vraiment, l'évidence aurait dû sauter aux yeux, et après une délibération qui va durer quand même 6 minutes, vous imaginez, c'est pas rien quand même, un débat judiciaire de 6 minutes, Jean Zay est condamné à la déportation et à la dégradation militaire, ça vous rappelle rien ça, fixant au maximum la durée de la contrainte par corps. De façon symbolique, écrit Gérard Boulanger, symbolique d'une volonté de revanche longtemps remâchée, c'est la même peine que celle qui avait été infligée à Alfred Dreyfus. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le dernier acte de la tragédie va pouvoir se dérouler.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire, chers auditeurs, et vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. Nous envoyer vos messages par la page Facebook de l'émission, bien sûr par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire continue dans un instant avec vous, Franck Ferrand, pour nous parler d'un grand résistant français, Jean Zay.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Quatre figures de la résistance au nazisme font faire leur entrée au Panthéon la semaine prochaine. Franck Ferrand, vous nous parlez de l'un d'entre eux, Jean Zay.
Alors, Jean Zay a été condamné à la déportation, pour désertion quand même, vous avez bien compris. Évidemment, on est en période de guerre, donc il n'est pas déporté. On va le brinque-baller comme ça pendant quelques semaines. Et puis finalement, il est enfermé à la maison d'arrêt de Rion, en Auvergne. C'est là que sont les prisonniers politiques du régime de Vichy. Mais je souligne qu'au départ, on lui inflige un régime de prisonnier de droit commun. Il n'aura un régime spécial qu'un peu plus tard, ce qui lui permettra quand même de lire les journaux, d'écouter la radio. Il écrit beaucoup, il tient un carnet, il va même rédiger 2 romans. Et puis surtout, il peut recevoir certaines visites, dont celle très régulière de son père, de sa femme et de ses 2 enfants. C'est d'ailleurs grâce aux enfants, si je puis dire, qu'il va pouvoir faire sortir des textes de prison. Nous parlions d'un cas tout à fait similaire il y a 15 jours. Les époux vont cacher des textes dans le landau de la petite fille. Il a des contacts avec des résistants. Certaines de ses notes peuvent être diffusées dans les réseaux de résistance. Mais les ennemis de Jean Zay sont là, qui ne le lâchent pas, si je puis dire. On pille son appartement parisien. Les journaux collaborationnistes font toujours de lui une cible favorite. Je suis partout, puis Gringoire vont publier en 1941 le journal secret de Jean Zay. Qu'est-ce que c'est que ce journal secret? On lui a dérobé des notes qu'il avait écrites quand il était ministre et les notes ont été complètement arrangées, tronquées pour faire une sorte de chose assez mensongère. C'est le moins qu'on puisse dire. Il réagit d'ailleurs depuis sa prison. Il ne se contente pas de commenter à grand renfort d'outrage, écrit-il. Ils ont coupé, escamoté, résumé. Ils ont soigneusement supprimé tout ce qui pouvait être gênant pour les thèses hitlériennes. Ça, évidemment. Peu à peu, les conditions de détention de Jean Zay vont se durcir à nouveau, notamment après l'évasion réussie du général Delattre de Tassigny, dont je vous parlais l'autre jour, en septembre 1943. Le cours de la guerre, à ce moment-là, est en train de s'inverser, si l'on peut dire. Les collaborationnistes sont de plus en plus fébriles, inquiets de ce que va leur réserver l'avenir. Et en juin 1944, Jean Zay apprend qu'il pourrait être transféré le 20 juin, À 10h30, 3 miliciens se présentent. Il y a là Henri Milhou, Pierre Cordier et puis le fameux Charles Devel dont je vous parlais tout à l'heure, qui donc se sont présentés à la prison de Rion. Ils sont munis d'une note de transfèrement. Le transfert doit avoir lieu vers Melun. Jean Zay a préparé ses affaires. Sur ses 3 valises, on ne lui laisse en prendre qu'une, finalement. Il souhaite dire au revoir à sa famille. On le lui refuse et finalement, les 3 miliciens le font monter dans leur traction. Une traction avant chevaux Citroën, vous savez, qui prend la direction de Vichy. Puis la voiture dépasse la petite ville de Cusset, s'arrête dans un lieu isolé. Et là, le chef Milhou prétend qu'ils sont en fait des maquisards déguisés en miliciens qui seraient venus pour organiser sa libération. Jean Zay, à ce moment-là, est entraîné sur un petit sentier. Pour rejoindre un soi-disant point de rendez-vous, sont censés se retrouver d'autres résistants. Il ouvre la marche, les trois miliciens le suivent de près. Le petit groupe s'arrête finalement près d'un ravin. Les quatre hommes s'assoient pour attendre les supposés camarades qui sont censés arriver. Jean Zay retire ses lunettes pour les nettoyer quand, brusquement, l'un des miliciens le frappe d'un violent coup de matraque. Et il n'est pas tout à fait assommé. Il a 39 ans à l'époque. Il comprend bien entendu ce qui se passe, et après un instant de flottement, Develle ramasse sa mitraillette et tire sur Jean Zay, qui n'aurait eu le temps que de crier « Vive la France !» Il s'écroule. Il est mort en patriote, poursuit Gérard Boulanger, le patriote qu'il fut toute sa vie, assassiné 4 années jour pour jour après être monté sur le Massilia. Peu avant d'être emmené par les trois miliciens qui devaient lui ôter la vie, Jean Zay, qui savait qu'il allait être transféré, qu'il allait donc être éloigné de sa femme, lui a écrit une lettre. Lettre qui résonne étrangement quand on sait, nous bien entendu, ce qui devait se passer. « Je n'ai jamais été si sûr de mon destin et de ma route, » crie-t-il. « J'ai le cœur et la conscience tranquilles, je n'ai aucune peur. J'attendrai comme je le dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de vous retrouver tous. » Et plus loin, « Je t'aime mon amour de toute mon âme, j'emporte le réconfort de notre entretien de dimanche, je suis fier de toi, je te dois déjà 13 années de profond bonheur, d'autres nous sont dus. » D'autres nous sont dus. Je suis donc très heureux de recevoir aujourd'hui Antoine Pro qui va nous parler de Jean Zay, et puis nous allons évoquer évidemment les autres personnalités que l'on va célébrer la semaine prochaine et qui vont entrer au Panthéon en compagnie de Nicolas Vinci.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Lors de la journée nationale de la résistance le 27 mai prochain, 4 grandes figures de la résistance feront leur entrée au Panthéon. Jean Zay est l'un d'entre eux. Vous recevez Franck Ferrand, l'historien Nicolas Vinci, commissaire de l'exposition 4 vies en résistance, présentée jusqu'au 10 janvier 2016 au Panthéon, et le professeur émérite à l'université de Paris 1, Antoine Pro, auteur avec Pascal Horry du livre Jean Zay, le ministre assassiné 1904-1944, paru chez Talendier.
Ah oui, un bel hommage à Jean Zay, qui est resté en quelque sorte une figure tutélaire pour la gauche, mais dont on ne parle pas suffisamment, Antoine Pro. Je pense que ça va changer dans les semaines qui viennent, bien entendu.
Oui, c'est... Jean Zay n'était ni communiste ni gaulliste. Et au lendemain de la guerre, les mémoires dominantes, c'était les mémoires communistes et gaullistes. Les radicaux socialistes étaient très peu de choses. En plus, ils étaient divisés. Et donc, sa mémoire n'a pas été... nationalisé dans les années 40, 50 et 60. Et son livre, dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure parce qu'en prison, il a écrit un admirable petit livre qui s'appelle « Souvenirs et solitude ». Il a été édité par des amis en 1946 et il est resté, il n'a pas été republié avant 1987. Et en 1987, sa fille Catherine connaissait des libraires, a essayé de trouver un éditeur. Aucun éditeur français n'a voulu le rééditer, il n'y avait pas de public. C'est un éditeur belge qui le réédite en 1987. Et ça marche, il fait une deuxième édition. En 2004 ou 2010, je ne sais plus, Belin rachète les droits et le publie au format de poche. Il est actuellement disponible au format de poche. Voilà un livre qui a eu beaucoup plus de lecteurs depuis 30 ans que dans les 40-50 ans qui ont suivi sa mort.
Un véritable ouvrage posthume.
Oui, parce que d'une certaine manière, Jean Zay illustre ce que peut être une politique de gauche pragmatique, raisonnable et intelligente. Et pas idéologique.
Oui, ça préfigure ce qu'on a connu depuis quelques décennies. On est très loin du grand soir, si je puis dire.
On est très loin du grand soir et on est très loin des aventures, mais on est dans le sérieux, on est dans le rocardisme d'une certaine manière.
Voilà, c'est ça, une sorte de rocardisme avant l'heure, si l'on peut dire.
Absolument, mais Rocard se référait beaucoup à Mendès. Et Mendès est un des autres espoirs du Parti radical.
Il a aussi d'ailleurs été sur le Massilia.
Absolument, c'est la même génération que Jean Zay. Il y avait dans le Parti radical de cette époque une pléiade de futurs hommes d'État.
Mais qu'est-ce qu'ils ont été faire sur ce paquebot, sur ce Massilia
Alors il y a quelque chose que vous n'avez pas dit tout à l'heure, mais qui éclaire beaucoup la situation. C'est que le maréchal Pétain devait rester en France pour gérer les affaires courantes et le gouvernement devait partir en Afrique du Nord. Il y avait d'un côté le Massilia qui partait vers le Maroc, Mais de l'autre, il y avait le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui devaient aller à Alger. Et Lebrun avait déjà mis ses voitures dans sa valise puisqu'il partait par Pourvendre. Et c'est Laval qui est allé faire une scène à tout casser avec une quarantaine de députés de ses amis pour obliger Lebrun à rester. Alors c'est une décision tout à fait fondamentale parce que imaginez que le président de la République et le président des deux assemblées aient été à Alger, il n'y avait plus de France libre, il y avait un gouvernement français en exil.
Comme d'autres,
et qui aurait été tout de suite reconnu par l'Angleterre. Tandis que de Gaulle, Churchill lui dit, bah, écoutez, vous êtes seul, je vous reconnais tout seul.
Eh oui.
Et il lui
c'est
dit,
pas du tout le même statut.
C'est pas du tout le même statut. C'est-à-dire que la décision qui a été prise, alors pour Jean Zay, elle est catastrophique, pour Jean Zay, pour les passagers du Mastilia, puisque comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, aussitôt ils sont traités de déserteurs, de fuyards, de froussards. Bon. Une chose aussi que vous n'avez pas dite, c'est qu'il était tout à fait normal qu'un homme politique sous les drapeaux vienne siéger au Parlement. Jean Zay lui-même, au mois d'avril 1940, avait quitté son unité et il était venu à Paris pour un comité secret de la Chambre des députés, où il a d'ailleurs prononcé un très très beau discours le 19 avril.
Avant de repartir dans son unité.
Donc le procès qu'on lui fait est totalement grotesque, d'autant plus que la présence de l'ennemi, c'est vraiment l'ennemi, il est présent très loin, puisque suivant l'heure à laquelle on le fait partir, il est à 90 km ou à 120 km de l'ennemi. Alors, donc, l'évidence est tellement massive que d'ailleurs, Jean Zay est complètement lui-même stupéfait.
Il est abasourdi, en fait. C'est une parodie de justice, on peut le dire.
C'est même pas une parodie de justice. C'est une sorte de, comment dirais-je, de camouflage pour la presse et pour les médias. Et je pense d'ailleurs que l'intention primitive du gouvernement de Vichy était de le faire fusiller. Parce que l'inculpation initiale sur laquelle il est accusé, était passible de la peine de mort. Et elle a été abandonnée en cours de route.
Il faut reconnaître que pour les responsables du gouvernement de Vichy, il incarne de façon presque archétypale tout ce qu'ils peuvent détester. Puisqu'il est l'homme du Front populaire, l'homme de tous les mouvements populaires des années 30. Il est juif, il est franc-maçon. Enfin, il n'est pas juif, mais son père, en tout cas, était juif.
Pour le gouvernement, mais aussi pour... toute une partie de l'opinion publique. On voit le gouvernement, on ne voit pas l'opinion.
Oui.
Au même moment, à Bordeaux, René Cassin, qui lui aussi est au Panthéon, va dîner au Normandie un soir, ça doit être le 20 juin. Et il est absolument écœuré parce que les conversations à table de ces gens BCBG, hostiles au Front populaire, sont « Ah, le Front populaire vient de prendre une bonne leçon !» Et ils se réjouissent de la défaite, ce qui dégoûte l'ancien combattant qui est Cassin. Ça le dégoûte absolument. Il dit, au terme de son récit, « Ce spectacle n'est pas pour rien dans ma décision de rejoindre Londres. » Comme si, note Cassin, comme si les Allemands allaient faire la différence entre les Français qui étaient pour le Front populaire et ceux qui étaient contre.
Et certains ont dû le penser.
Et certains l'ont pensé. Alors qu'un certain nombre d'hommes politiques, et c'est là qu'on retrouve le Jean Zay adversaire d'Hitler et de l'apaisement avec Hitler. Dans la décision qu'il prend de rejoindre l'armée, il y a aussi une logique. Jean Zay a voulu la guerre avec Hitler. Maintenant que la guerre est là, c'est plus la peine de se battre dans le gouvernement pour qu'elle ait lieu. Il est libre, il retrouve sa liberté. Et maintenant que la guerre est là, ceux qui ont décidé de la faire, ceux qui voulaient la faire, eh bien, ils doivent y aller. Il faut être logique avec soi-même. C'est ça la motivation de Jean Zay. C'est pas du tout de redorer son patriotisme. À l'époque, ça n'est pas prégnant, c'est pas immédiat. En revanche, la logique politique. Mais il faut bien voir qu'en France, comme en Angleterre, comme d'ailleurs en Angleterre, même en juin 1940, vous avez des partisans de l'apaisement. Des gens qui disent, mais après tout, Hitler n'est pas si terrible que ça, faisons-lui quelques concessions, ça va bien se passer. Il y a dans le...
C'est un discours qui a quelques années déjà, d'ailleurs, à l'époque.
C'est un discours qui date d'avant Munich, inspire Munich et qui poursuit. Et donc, d'une certaine manière, Jean Zay, vous avez dit tout à l'heure, c'est un grand résistant.
Alors, voilà,
je dirais plutôt, c'est un résistant, grand résistant, entre guillemets, peut-être pas. Mais symboliquement, Ce que marque Jean Zay, c'est que la République, la vraie République, était résistante. C'est ça qu'il incarne, c'est ça qu'il symbolise, c'est ça qu'il résume.
Justement, Nicolas Vinci, les personnalités qui sont accueillies au Panthéon la semaine prochaine sont des personnalités incarnant la résistance sous diverses formes, Jean Zay étant le plus, si je puis dire, le plus théorique ou le plus intellectuel des quatre.
Oui, c'est une résistance intellectuelle, puisqu'en prison, il continue de travailler, d'écrire, de réfléchir à des projets pour d'avenir pour la France. Mais ce que l'on a essayé de montrer aussi dans l'exposition au Panthéon, c'est que certains des projets qu'il écrit sont transmis au cahier de l'organisation civile et militaire. Ce sont des projets de réforme du ministère de ce qu'on appellerait maintenant le ministère de la Culture, en fait. Et ces projets sont publiés pendant la guerre. Donc c'est une résistance intellectuelle, mais qui a une matérialisation dans un mouvement de résistance qu'est l'OCM.
Publié pendant et utilisé, si je puis dire, après la guerre.
Bien
donc
sûr.
Avec une postérité, bien entendu.
Bien sûr.
Il y a autre chose.
On ne vous entend pas très bien, Antoine Popard.
Voilà. C'est Jean Zay qui fait passer à l'extérieur le résumé des dépositions de Rion et de Daladier au procès de Rion.
Oui.
Blum est emprisonné la chambre au-dessus. Donc il a les textes de Blum, il les résume et ils partent. Alors est-ce qu'ils partent dans le landau de la petite Hélène, je ne sais pas, mais le fait est qu'ils partent, qu'ils sortent.
C'est sa femme qui dira ça à Madeleine.
Ben oui, qui est... Mais...
Le 15 mai 1948, au moment des obsèques de Jean Zay à Orléans, Léon Blum regrettera un assassinat médité minutieusement, frustrant le pays d'une des intelligences les plus dévouées à ce pays, justement.
Oui. Moi, je n'ai rien à ajouter à ce que dit Léon Blum, c'est tout à fait juste.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Geneviève Antonioz de Gaulle, Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay, quatre grandes figures de la résistance au nazisme, seront panthéonisées mercredi prochain, le 27 mai. Vos invités, Franck Ferrand, le professeur émérite à l'Université Paris 1, Antoine Pro, auteur du livre avec Pascal Horry, Jean Zay, le ministre assassiné 1904-1944, paru chez Talendier, et l'historien Nicolas Vinci, commissaire de l'exposition « Quatre vies en résistance », présentée jusqu'au 10 janvier 2016 au Panthéon.
Il faut peut-être préciser, Nicolas Vinci, que l'exposition va fermer très provisoirement ce soir pour des raisons d'organisation de la cérémonie de mercredi prochain et qu'elle rouvrira mercredi à l'issue des discours et des solennités.
Exactement, elle rouvrira très précisément le 28 après-midi et d'ailleurs l'accès sera gratuit jusqu'au 31 mai pour faire suite immédiate à l'hommage national du 27 mai.
Que peut-on voir dans cette exposition? Sous quelle forme se présente-t-elle?
L'exposition, en fait, est conçue pour présenter la biographie de ces quatre personnalités auxquelles la nation rend hommage. Et elle est composée à 50% de panneaux documentaires physiques et à 50% de dispositifs numériques. C'est-à-dire qu'on a voulu accorder une très grande place à l'interactivité, dans cette exposition.
Avec une sonorisation, vous me disiez que, par exemple, le fameux discours de Léon Blum aux obsèques de Jean Zay est diffusé, en tout cas des parties.
Exactement,
sont diffusées.
Des extraits sont diffusés. Il y a beaucoup d'images également animées, des archives audiovisuelles, mais également des interviews, des témoins qui ont connu les quatre personnalités. On retrouve notamment les filles de Jean Zay dans ces interviews, mais également des scientifiques. Le professeur Pro nous a fait l'amitié d'y parler également.
C'est-à-dire que autour de cette exposition, vous avez fait un véritable travail de recherche finalement et de recueil d'informations et de témoignages.
Un des objectifs effectivement de cette exposition d'histoire du temps présent finalement, c'était de recourir à cette méthode de l'entretien oral et les témoignages de personnalités qui ont connu ces quatre héros-héroïnes. Alors, j'aime pas trop le mot, mais de ces quatre personnes sont fondamentaux parce qu'ils se raréfient tout simplement. On a le témoignage d'Anis Postel-Vinet, grande résistante déportée à Ravensbrück, qui parle de Germaine Tillion et de Geneviève de Gaulle-Antonioz. Je parlais tout à l'heure des filles de Jean Zay. Il y a également le fils et la fille de Pierre Brossolette, Claude-Pierre Brossolette et Anne Brossolette-Branco, qui témoignent ensemble pour la première fois. Donc c'est un élément important.
La première émission parmi celles que nous avons que nous avons lancée en 2011, quand on a repris l'émission en quotidienne, était une émission sur Pierre Brossolette, justement. Je me demande, et je regarde Lorena Martin en me posant la question, s'il ne serait pas possible, et Marion Sauveur, dont c'est peut-être d'ailleurs au moins autant la responsabilité, s'il ne serait pas possible de la remettre en ligne, cette émission, qu'on puisse écouter l'émission sur Pierre Brossolette. Les médias s'attachent beaucoup à l'entrée de ces deux femmes. Alors, quand je dis à l'entrée, ce sont leurs cercueils qui vont entrer, puisque les corps vont rester dans les villages où ils ont été enterrés, ceux de Germaine Tillon et de Geneviève de Gaulle-Antonioz.
Bon, alors moi, en tant que commissaire de l'exposition, j'ai établi une frontière assez étanche avec la partie hommage.
Oui, certes, enfin, parce que, mais vous n'êtes pas sans le savoir.
Je le sais, effectivement, car j'ai lu la presse comme tout le monde. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on est aussi dans la perspective des suites du rapport du président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bélaval. Et dans ce rapport, pour faire entrer le peuple au Panthéon, une des conclusions était que tous les hommages au Panthéon se valent et... cendre ou pas cendre, il y aura bien Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioz au Panthéon. Il y aura leur tombe au Panthéon. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que je pense, Germaine Tillion, je peux pas me mettre à la place de ce qu'elle pense, mais son caractère pionnier et voyageur ne l'empêcherait pas, si on croit qu'il y a quelque chose après la mort, de venir au Panthéon par elle-même.
Que faut-il retenir, Antoine Pro, de Germaine Tillion, parce que vous êtes bien conscient des contraintes d'une émission comme celle-ci? On a quelques minutes.
Ah
alors.
Non, Germaine Tillion est une femme extraordinaire. Moi, je l'ai croisée deux fois, un peu longuement, mais je fais pas partie de ses intimes. Déjà, je la connaissais bien. Mais c'était une vieille dame d'un tempérament et d'un tonus. On avait peur, on voulait la protéger. Et était capable de causer jusqu'à 11h minuit de sujets qui la passionnaient.
Notamment de l'Algérie.
Non, mais notamment de l'Algérie. Enfin, c'est quand même une jeune femme qui est allée dans l'Aurès à 18-20 ans faire de l'ethnologie. Bon, c'est une des premières résistantes. C'est ce qu'on appelle improprement le réseau du Musée de l'Homme. Donc c'est une déportée. Et puis après, elle revient en Algérie comme conseillère de Soustel, qui, quand il est nommé, est un homme de progrès, pas du tout le partisan de l'OAS qu'il est devenu ensuite. Et elle va créer les centres sociaux en Algérie, qui est une structure d'alphabétisation. Germaine Tillion, c'est... Alors, Le personnage Germaine Tillion, son opérette écrite en prison, c'est
à Ravensbrück.
À Ravensbrück, oui, enfin, oui, je dis en prison, en camp de concentration. C'est extraordinaire. Capacité de distance par rapport à soi-même, par rapport à la situation. C'est une femme comme on n'en fait pas.
Ravensbrück, c'est aussi Geneviève de Gaulle, bien entendu.
Ah oui, c'est un camp de femmes, c'est aussi Anne-Lise Postel-Vinet, c'est... comment est-ce qu'elle s'appelle ?
Une période de cours.
Oui, peu importe. Oui, Marie-Josée Chaubard-Delon.
Et bien sûr, qui dirige actuellement l'association des déportés que nous saluons.
Et alors, Geneviève de Gaulle, c'est un peu différent, c'est quelqu'un qui a eu une grande importance dans la résistance... pour faire passer des résistants qui étaient un peu favorables à Giraud, c'est-à-dire qui voyaient dans Giraud un homme rassurant, puis il était quand même protégé par les Américains. Et Geneviève de Gaulle est celle qui a fait passer notamment Défense de la France du giraudisme au gaullisme. Elle a eu donc un rôle
politique essentiel.
Politique, oui. Au printemps de 1943, quand il est essentiel que de Gaulle puisse se présenter comme le patron de l'ensemble de la résistance intérieure.
Elle a eu une carrière, elle a continué, elle a poursuivi sa carrière bien, bien au-delà de la résistance et de la guerre, bien entendu, jusqu'à des années relativement récentes. Elle était devenue une sorte de conscience nationale, notamment en faveur des plus démunis, il faut le dire ça, Nicolas Vinci.
Oui, lorsqu'elle revient de déportation, Geneviève de Gaulle se reconstruit personnellement, elle se marie, et c'est un élément important dans sa vie, elle le dit, hein. Dans ce qu'elle a écrit.
Précise son lien de parenté avec le général.
Donc c'est la nièce du général de Gaulle, voilà. Le général de Gaulle est d'ailleurs le témoin de ce mariage avec Bernard Antonioz, qui est un résistant et un des proches en fait d'André Malraux. Mm-hmm. Donc dans un premier temps, au début de la Ve République, elle entre au cabinet d'André Malraux au ministère des Affaires culturelles. Absolument. Avec Bernard Antonioz. Et elle rencontre ensuite l'abbé Frechinski, qui l'emmène au bidonville de Noisy-le-Grand, qu'on qualifiait de camp de Noisy, et elle dit à ce moment-là être frappée par quelque chose qu'elle a connu à Ravensbrück, cette misère, cette détresse dans les yeux de ces personnes très pauvres, et elle prend un parti radical qui est de s'engager à temps plein pour eux, et donc de participer à l'édification d'ATD Quart-Monde, dont elle prend la présidence dans les années 1960, et qui l'a conduit à succéder à Joseph Brzezinski au Conseil économique et social en 1988. Et pendant 10 ans, elle continue ce combat d'ATD Quart-Monde, qui est d'obtenir une loi sur la cohésion sociale qui place comme principe fondamental de la République l'idée d'égale dignité des hommes, y compris des plus pauvres.
Je n'ai pas encore visité l'exposition au Panthéon. Il va donc falloir que j'attende une semaine là maintenant, mais à moins de s'y précipiter avant 18h, ça risque d'être un petit peu court. Il paraît qu'en entrant, on tombe d'abord sur Pierre Brossolette, si je puis dire. C'est la figure la mieux connue du grand public.
Oui, en fait, on tombe sur lui en premier pour une raison simple, qui est que c'est le premier à être né, puisqu'il est né en 1903, et que l'exposition suit un fil chronologique de leur naissance à leur mort, puis ensuite à l'héritage que nous en avons gardé. Et Pierre Brossolette, effectivement, est peut-être le plus connu, mais ce qui est intéressant, et j'ai essayé de le montrer dans l'exposition, c'est que c'est une figure qui a été ensuite moins perçue dans la mémoire collective, mais qui, au sortir de la guerre en 1945, était un des résistants les plus célébrés. Et en témoigne, c'est plus de 500, je crois, édifices publics ou rues ou avenues qui s'appellent Pierre Brossolette. Et je pense que chacun connaît une rue Pierre Brossolette près de chez lui.
Alors il y a toute une partie biographique, bien entendu. On présente les personnalités, ça s'appelle l'origine. Résistance, c'est évidemment le cœur même de l'exposition, oui. Hein, c'est-à-dire leur parcours très différent dans la résistance. Ce que vous avez appelé dépassement, qu'est-ce que c'est, ces dépassements?
Les dépassements, en fait, ce sont deux choses. C'est comment est-ce que dans l'épreuve de la guerre, ces quatre personnalités ont cherché à envisager la France de la libération? Quels projets ont-ils proposé? Puisqu'il y a ce défi aussi pendant la résistance qui est de penser l'organisation politique du pays, puisqu'il cette organisation n'est plus, par définition, à ce moment-là. Donc ça, c'est notamment Pierre Brossolette et Jean Zay. Je vous parlais tout à l'heure de cette note sur le ministère de la Culture. Et aussi, deuxième point de ces dépassements, comment ces personnalités ont trouvé dans la guerre les ressorts d'engagement ultérieur, et cela vaut pour Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioz, des engagements au service de valeurs de la République, que sont l'égalité et la fraternité notamment.
Ce n'est pas la première fois que des résistants vont entrer au Panthéon, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on a tous le souvenir du discours d'André Malraux au moment de l'entrée de Jean Moulin, bien entendu. Il y a Malraux lui-même, vous parliez de René Cassin, Antoine
Pro. Et puis il y a Félix Éboué.
Mais oui, Félix Éboué.
Il y en a probablement d'autres.
Il y en a d'autres de citer, notamment sur les murs.
C'est le taf, oui, voilà, c'est ça.
Le général de Lestrin, par exemple.
Oui, de Lestrin.
Alors nous allons venir dans un instant pour répondre à la question d'une auditrice. Ça tombe bien, nous avons choisi cette question aujourd'hui. Nous allons revenir sur l'origine du Panthéon et sur ce qu'il représente, bien entendu. Ça vous paraît important ce qui va se passer la semaine prochaine, Antoine Pro? Pour la mémoire collective, pour le...
Écoutez, ça dépend beaucoup de la politique que les gouvernements successifs auront à l'égard du Panthéon. Qu'il y ait un lieu dans lequel la République honore ses grands serviteurs, c'est plutôt une bonne chose, mais il ne faut pas que ce lieu soit un tombeau, soit une sorte de vaste cénotaphe sinistre et vide, sauf de visiteurs qui veulent voir l'architecture de Soufflot. Bon, moi je veux bien, c'est une belle architecture. Mais j'avoue que j'ai toujours été surpris du vœu de Cassin d'être enterré au Panthéon. Cassin a dit à plusieurs reprises, il a même écrit dans son testament, si on jugeait que ce serait bien que je sois au Panthéon entre Jean Moulin et Félix Éboué, en effet, je considère que c'est ma place. Il ne manquait pas d'air. Le projet pour un individu de vouloir être enterré au Panthéon est vraiment pas très attractif. Je trouve que, ou bien on accepte le projet du Panthéon, et à ce moment-là, il faut que le Panthéon vive, il faut que ce soit un lieu visité, apprécié, et ça a du sens d'y mettre le public, d'y mettre les grands hommes, comme me dit le frontispice de l'édifice. Si c'est pour fermer la porte sur eux et les laisser en paix jusqu'à l'anniversaire de leur panthéonisation ou de leur mort,
c'est plus discutable.
C'est plus discutable.
Merci beaucoup Antoine Pro. L'exposition « Quatre vies en résistance » sera jusqu'au 10 janvier 2016 au Panthéon, justement, qu'on pourra revoir donc dès le 28 mai, le lendemain de la cérémonie. Et là, ce sera gratuit d'ailleurs jusqu'au 30, si je ne m'abuse.
Mais oui.
Voilà. Et parmi les quatre vies, il y a celle de Jean Zay. Jean Zay, le ministre assassiné, c'est édité, coédité par Talendier, sous la signature d'Antoine Pro et de Pascal Horry. Merci, messieurs.
Restez avec nous sur Europe 1 dans la suite de Cœur de l'Histoire. Vous le disiez, Franck Ferrand, vous allez répondre à la question de Marine sur l'origine du Panthéon des grands hommes.
T. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Marine qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande depuis quand le Panthéon abrite les grands hommes de l'histoire de France.
Alors justement, on est sur la montagne Sainte-Geneviève, vous savez, et c'est la basilique. Au départ, c'était une église, Sainte-Geneviève, le Panthéon. Sainte-Geneviève, patronne de Paris, qui est morte en 512, et Clovis avait fait construire cette basilique pour accueillir le tombeau de la Sainte. Enfin, quand je dis cette basilique, une première basilique, bien sûr, puisque on sait que c'est le grand Soufflot, l'homme du néoclassicisme, qui, sous le règne de Louis XV, va lancer la construction de l'actuel monument gigantesque et somptueux dont parlait justement Antoine Pro il y a quelques minutes. On a posé, enfin c'est le roi Louis XV qui pose la première pierre en 1764. Les travaux, il s'agit de commémorer, on est 20 ans après sa maladie de Metz, vous savez, le roi était, avait survécu, donc on commémorait ce miracle, si je puis dire, et les travaux vont se prolonger jusque sous la Révolution, ils ne sont achevés qu'en 1790. Or, très tôt, dès le 4 avril 1791, l'Assemblée constituante décide de changer l'orientation de l'édifice, qui va devenir donc un panthéon des grands hommes. C'est Mirabeau qui en sera le premier représentant, vous savez qu'en fait, il y restera d'ailleurs pas longtemps dans un premier temps. Alors, il y a eu des... Je ne peux pas rentrer dans toutes les... On peut dire toutes les vicissitudes de ce monument et de ce qu'il a représenté. C'est au 19e siècle que l'édifice va... À la fin du 19e siècle, qui va reprendre cette dimension de Panthéon, avec notamment la mort de Victor Hugo. La Troisième République, en 1885, réinstaure le Panthéon des grands hommes, ce qu'il est toujours.